1899, l'Erika, une coque courrie à Dunkerque, golfe de Gascogne, une tempête. Le bateau se brise, marée noire, le pétrole qui sent la mort. Et s'il coule, pas de remords pour Total. Total n'est pas responsable, protégé par les conventions internationales.
Plus de 80% du commerce international se fait par bateau et le transport maritime international augmente d'année en année en flotte et en capacité de transport. Ce moyen de transport est vital pour l'activité économique de nombreux pays, mais comme le prouve la catastrophe écologique de l'Erika dont le procès en appel s'ouvre aujourd'hui, ce mode de transport n'est pas sans risque pour l'environnement.
Alors pour aborder ce dossier sur le transport maritime et son impact environnemental, nous recevons aujourd'hui un expert de des questions maritimes, Christian Buchet, bonjour.
Bonjour à chacun.
Alors vous êtes aussi un historien de la mer. Dans le passé, quand il y avait une catastrophe maritime, le risque c'était la perte de l'équipage, du bateau, de sa cargaison. Mais aujourd'hui on se préoccupe aussi de l'impact écologique et sanitaire, surtout quand il s'agit de produits toxiques, de matières dangereuses. Depuis quand, Christian Buchet, on a intégré cette notion?
J'en sais pas trop. Est-ce qu'on l'a vraiment encore intégré? Je me pose parfois la question. Parce que le naufrage est toujours une réalité quotidienne. Bon, je me fie aux grosses unités de plus de 300 tonneaux. Parce que si on intègre, si vous voulez, la plaisance, les planches à voile, on devrait arriver à 8000 événements de mer. Bon, pour arriver, si vous voulez, à un chiffre plus représentatif de ce qu'on imagine, je dirais collectivement par naufrage, vous avez chaque année 115, 120 naufrages de gros navires de plus de 300 tonneaux. Ce qui veut dire que vous avez un naufrage tous les 2 ou 3 jours sur les mers du globe. Alors bien sûr, on ne parle que ceux qui nous frappent, que ceux qui nous touchent. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de naufrages, principalement maintenant dans les eaux de l'hémisphère sud, parce que les navires poubelles, je dirais, évitent plutôt de passer dans nos eaux, parce qu'on a quand même fait des progrès, mais loin des yeux, loin du cœur, je peux dire que c'est pas triste dans l'hémisphère sud. Mais attention, nous sommes toujours à la merci d'une fortune de mer, et on parle beaucoup, vous savez, des pétroliers, mais c'est l'ensemble de la flotte mondiale. On parle beaucoup de pétroliers parce qu'essentiellement c'était le grand trafic maritime, mais attention aux chimiques, je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup plus fiables que certains pétroliers.
Alors justement, aujourd'hui on transporte de tout sur les océans. Est-ce qu'il y a des produits qui sont interdits de transport maritime?
À ma connaissance, non, en fonction du degré de dangerosité. Il faut bien considérer que c'est le transport le plus sûr. Il vaut mieux à tout prendre faire passer des produits très dangereux par mer que par train en plein milieu des villes. Je dirais, il faut bien transporter les choses. Lorsqu'il s'agit de produits considérés comme dangereux, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Le tout, on le sait bien, parfois, certains produits dangereux sont transportés sans qu'il y ait ces précautions, tout simplement parce que il arrive que les affréteurs, c'est-à-dire ceux qui font voguer leurs marchandises, n'utilisent pas ces procédures-là parce que c'est plus coûteux. Donc, c'est vrai que lorsqu'on fait des inspections, on est parfois surpris entre la mauvaise correspondance entre ce qui est déclaré et ce qu'il y a réellement.
Alors justement, est-ce qu'il y a des routes, comme pour les avions, ce trafic maritime, finalement, il circule, il va où il veut, ou est-ce qu'il est finalement très contrôlé?
Il n'est pas assez contrôlé. Il n'est pas assez contrôlé. Vous savez, le droit aérien auquel vous faites référence est un droit récent. C'est géré par l'OACI, l'Organisation d'Aviation Civile Internationale. L'OMI, bon, est une émanation de l'ONU. Mais je dirais, le droit de la mer est un vieux droit. On s'est battu dès le XVIe siècle. Il y avait Grotius qui plaidait pour une liberté des mers. Le juriste anglais Wellwood, au contraire. Donc tout ça, le droit maritime étant ancien, il n'est pas assez centralisé. Et il faudrait revoir bien des choses. Bien sûr, il y a des routes. Mais les routes, ce n'est pas des routes qu'on impose, c'est les routes qui correspondent à la géographie, si vous voulez. Autant un avion est bien positionné dans un couloir aérien, avec une certaine distance, avec une certaine altitude entre deux avions, aujourd'hui on n'en est pas là, sauf dans les zones à risque, plus particulièrement à risque sont les détroits. Par exemple, dans le cadre de la Manche, effectivement, on sait qu'il y a deux rails. Mais c'est le cas de figure, je dirais, qui n'est pas forcément représentatif.
Mais justement, on va y aller parce qu'il y a certaines zones qui sont très dangereuses pour la navigation. Vous le disiez, comme la pointe de la Bretagne dans l'ouest de la France, il y a à cet endroit une importante concentration du trafic entre l'Atlantique et l'Europe du Nord dans une sorte de goulet de passage juste à proximité d'une côte extrêmement dangereuse avec des courants et des récifs. Et pour contrôler ce passage, une sorte de tour de contrôle surveille le trafic et interroge les bateaux. Arnaud, vous y étiez allé il y a quelque temps avec Véronique Guémard et vous aviez rencontré justement les officiers de quart de ce fameux cross-corsen.
Oh, CL Netherlands, station traffic. Good afternoon, sir. What is your last port of call on your destination,
sir? Good afternoon, sir. OOCL Netherlands, last port, Singapore, next port, Southampton.
Over. OOCL Netherlands, station traffic. Do you have dangerous cargo on board, sir?
Yes, we carry all classes of highest dangerous cargo on board, 3.000 metric tons of it.
Ça, c'est des explosifs.
Okay, thank you, sir. Can you give me the total weight of your dangerous cargo, over?
One total weight on board, 2.59.88 metric tons, over.
En fait, en Manche, il y a des rails un petit peu comme une autoroute, parce qu'on a voulu, compte tenu de cet important trafic, et puis en plus, il y a du trafic traversier en Manche, hein, il y a des navires qui font la liaison entre la France et l'Angleterre, on a voulu éviter les risques de collision, donc on a canalisé un flux montant et un flux descendant qui essayent de ne pas se croiser trop. Donc, on a fait une espèce d'autoroute avec des points de passage obligatoires et des radars qui surveillent les navires et qui font respecter les règles. Le but, si vous voulez, c'est que les navires dangereux, les pétroliers en particulier, et aussi les transporteurs de produits chimiques ou de produits nucléaires, ne passent pas trop près de la côte, au minimum à 30 km de la côte, c'est-à-dire à 3 heures de dérive de la côte. Ce n'est pas encore un luxe. 3 heures, c'est juste le temps qu'il faut pour intervenir s'il y en a besoin.
Il y a combien de navires qui passent au large d'ici ?
57 000 bateaux par an, ce qui fait 150 bateaux par jour. Et sur ces 150 bateaux, il faut savoir qu'il y a 700 000 tonnes de pétrole qui passent tous les jours, ici au large.
Tous les jours ?
700 000 tonnes tous les jours et 90 000 tonnes de produits dangereux. Donc, bon, effectivement, il y a un risque potentiel permanent. Ouais, permanent.
La marge de manœuvre est serrée, hein, en cas de pépin. Par mauvais temps, un puissant remorqueur est prépositionné pour aller au secours des bateaux qui auraient une avarie juste au mauvais endroit. Hein, et le risque est permanent, comme on vient de l'entendre. Et pourtant, on est au large de l'Europe, une région du monde qui dispose d'énormes moyens. J'imagine, Christian Buchet, qu'il y a bien des mers et des caps où on doit se sentir très seul, par contre.
Oui, d'abord, je crois qu'il convient de rendre hommage à ces personnes de la Marine nationale, à ceux qui travaillent sur, effectivement, les abeilles, c'est-à-dire ces remorqueurs qui sont prépositionnés dans un certain nombre d'endroits. S'il n'y avait pas ce dispositif, nous aurions infiniment plus de naufrages sur nos côtes. Donc là, je crois que ce dispositif marche bien. On a jusqu'à 3 heures pour intervenir. Encore une fois, c'est en permanence, c'est des dizaines de naufrages qui sont évités chaque année par ce dispositif. Bien sûr, ailleurs, ça ne fonctionne pas encore tout à fait comme ça. Mais vous savez, je crois que le transport maritime, il est lié à plusieurs, enfin plutôt l'insécurité maritime, je la caractériserais de deux points de vue. Il y a deux types de naufrages. Il y a la rupture de coque, c'est-à-dire un navire qui se brise, comme le Prestige, comme l'Erika, c'est souvent à celui-là que nous pensons. Ça résulte d'un mauvais entretien, d'une mauvaise surveillance de l'entretien. Et vous avez un deuxième type de naufrage qui représente 80%, dont on ne parle quasiment jamais en Europe, c'est le naufrage procédant d'erreurs humaines. Dans 80% des cas, le naufrage procède d'erreurs humaines. Alors j'ai fait avec mes étudiants tout un tas de segmentations. Dans 43% des cas, l'erreur procède d'un officier de quart. Pourquoi ? Non pas qu'il soit pas appareillé, non pas qu'il soit mal formé, mais parce que dans 40% des armements, c'est pas rien, pardonnez-moi du peu, dans 40% des armements, on ne peut pas respecter la réglementation minimale du Bureau international du travail qui prévoit qu'il y ait par 24 heures 10 heures de repos, dont 6 heures en continu. Eh bien, quand ça ne peut pas être respecté, parce que vous avez un sous-effectif, et c'est ça la cause réelle des naufrages, quand vous avez un sous-effectif, une fatigue, parce qu'on ne s'arrête pas à 18 heures pour repartir le lendemain matin à 7 heures du matin, bah, on somnole, baisse de l'acuité visuelle, baisse de l'acuité auditive, et les naufrages ou des collisions arrivent comme ça. On a tous en tête des collisions de navires avec des bâtiments de pêche. Ça a été évoqué dans la Manche, il y a ce couloir et en plus il y a toutes ces liaisons. Donc si on veut lutter contre le naufrage, parce qu'il y a encore une forte marge de manœuvre, il faut savoir que ramené par au kilomètre parcouru, le transport maritime est 25 fois plus dangereux que le transport aérien.
Et pourtant, vous disiez tout à l'heure que c'était quand même le mode de transport le plus utilisé.
Bah heureusement, parce que s'il fallait faire passer tout ça par nos routes qui sont déjà saturées et qui le seront encore plus, si on devait faire passer ça par voie aérienne, on n'y arriverait pas et le réchauffement qu'évoquait Jean-Louis Etienne serait encore plus marqué. Donc heureusement que ça passe par voie maritime. C'est le transport, si vous voulez, le moins coûteux, parce que le frottement d'une coque sur l'eau...
Mais le plus dangereux, presque.
Ah non, pas le plus dangereux. Non, je pense que le transport routier est infiniment plus dangereux. Non, il y a une marge de manœuvre de progression. Si on lutte contre eux, le mauvais entretien et si on lutte contre le sous-emploi à bord des navires.
Alors justement, on s'aperçoit que si on fait une moyenne mondiale des bateaux hein, et du trafic international, on s'aperçoit que les bateaux ont une moyenne d'âge de 18 ans et 68% des pétroliers et des gaziers ont plus de 15 ans. Est-ce que vous interprétez ça comme c'est plutôt rassurant ou c'est plutôt inquiétant ?
C'est pas plutôt, c'est carrément inquiétant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un navire de plus de 15 ans est considéré comme un vieux navire. Bon, ceci étant dit, ça veut tout dire et rien dire, parce que tout dépend de l'entretien. Si vous prenez un certain nombre de bâtiments prestigieux de la Marine nationale, à commencer par la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère, qui va d'ailleurs s'arrêter cette année, c'est sa dernière mission, ce sont des vieux navires, mais qui ne risquent rien, parce qu'ils sont parfaitement entretenus. Donc tout dépend de la capacité d'entretien. On ne peut pas dire au bout de 18 ans ou 19 ans, on va supprimer un navire, la 19e année, ils ne pourront plus voguer, parce que ça veut dire que les armateurs ne donneront plus la peine la 16e année de les entretenir. Et on aura des naufrages la 18e année. Donc ce qu'il faut, c'est s'assurer que les armateurs entretiennent bien leur navire. C'est de la responsabilité des États, et lorsque les États confient cette responsabilité, externalisent, comme on dit les choses, à des sociétés de classification, aux États de surveiller le sérieux de ces sociétés de classification, c'est tout le débat actuel de l'ERICA. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit, seul l'armateur est responsable, seul le propriétaire du navire est responsable. Il faut que les affréteurs puissent, je ne sais pas s'ils doivent l'être ou pas, c'est tout un débat, mais en tous les cas, si on devait, de mon point de vue, élargir la responsabilité des personnes, ça serait au niveau de l'État. Dans tout navire, vous avez un pavillon, un drapeau, si vous voulez, à la poupe. Eh bien, il faut, si vous voulez, que ces États puissent être considérés comme responsables, parce que c'est eux qui, contre des droits, vérifient la bonne navigabilité des navires.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
Du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'expert maritime Christian Buchet. Nous parlons de circulation des bateaux sur nos mers pour alimenter le commerce international. Christian Buchet, alors justement, comment ce trafic maritime est-il réglementé ? D'ailleurs, est-il réglementé ? Oui, on peut le dire quand même.
Oui, non, il est réglementé. Si vous voulez, vraiment, il y a 1000 feuilles juridiques. Donc à la limite, c'est pas la peine de rajouter une couche. Il faudrait simplement appliquer les mesures qui ont été prises. Bon, appliquer les mesures qui ont été prises, c'est pas simple. Alors il y a d'abord les états du port qui peuvent surveiller. Tout navire relâchant des ports de l'Union européenne sont surveillés. Il y a des inspections qui, notamment en France, est 26%, mais ce n'est pas des inspections faites au hasard, ce sont des inspections ciblées sur des navires à risque.
En même temps, on a vu le problème du Probo Koala qui était reparti d'Europe malgré que le port ait surveillé le bateau.
Tout à fait, mais de façon générale, on va arriver dans les 2-3 ans vers 100% des navires à risque qui vont être surveillés. Bon, ceci étant dit, ça ne réglera pas tout. Il faut aussi, si vous voulez, que l'Organisation maritime internationale aille plus loin au niveau des mesures. Et parfois, il m'arrive de douter des capacités de cette organisation, l'OMI, à améliorer les choses. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les États qui ont, pardonnez-moi l'expression, pignon sur riz au sein de l'OMI, sont les États représentant les grands pays maritimes au niveau commercial. c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie, c'est Panama, Belize, Saint-Vincent, etc. Puisqu'on a, en quelque sorte, un droit de contrôle au prorata de la flotte que l'on a. Bon, c'est pas la flotte française.
Il y a des conflits d'intérêts. Hein.
Donc il y a des conflits d'intérêts. Donc bien sûr, lorsqu'il y a un naufrage important, sous la pression des États-Unis, sous la pression de l'Union européenne, lorsque l'opinion publique, c'est très précieux, l'opinion publique est derrière pour faire avancer les choses. Bon, on prend des mesures. On prend des mesures, mais on les prend parfois d'autant plus facilement qu'on n'est pas toujours certain qu'elles puissent s'appliquer. Je vous le disais, il faut aller. Le paquet RICA 3 est un progrès, il n'est pas encore en train de s'appliquer, mais va dans cette direction, vers la responsabilité de l'état du pavillon. Faire que les États soient responsables, ne serait-ce qu'au dollar symbolique, à l'euro symbolique. Vous savez, un naufrage comme celui du Johala, vous en souvenez peut-être, c'est un ferry. Un navire qui est certifié pour 550 personnes. Vous avez plus de 1100 morts. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas bien, et c'était une compagnie d'État. Si les États pouvaient être incriminés automatiquement par des parties civiles, pas par un autre État, parce que ça nous poserait des questions diplomatiques difficiles, eh bien c'est évident que les États qui n'aiment pas être montrés du doigt seraient beaucoup plus vigilants, beaucoup plus sourcilleux. L'Académie de Marine a d'ailleurs fait un très beau rapport en ce sens. Il faut aller plus loin sur la responsabilité des États, mais je ne suis pas sûr que ça soit l'intérêt de l'OMI de faire ça.
Mais comment est organisé l'espace maritime ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des législations plus ou moins contraignantes, plus ou moins efficaces sur certains territoires, mais quand on est par exemple dans les eaux internationales, on dépend de qui ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vous dépendez de personne, vous dépendez de vos propres navires. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, 12 000 marins, ce sont les eaux territoriales, un État fait ce qu'il veut, il a pleine souveraineté. Vous avez pour les mers ouvertes, c'est-à-dire si les mers qui ne sont pas ouvertes par définition des océans, ce qu'on appelle des ZEE, une zone économique exclusive jusqu'à 200 000 marins.
Là, ouais.
Donc 200 000 fois 1 852 mètres, ça fait 372, là l'État peut contrôler. Mais dans les eaux internationales, au-delà de 200 000 marins, eh bien c'est évident qu'en principe, seuls les navires du pays sont en mesure de surveiller, d'arraisonner un navire de son pays.
200 000 marins, ça fait combien en
kilomètres ? 372 kilomètres. Vous savez, il y a eu un cas de figure un peu difficile il y a quelques années. Un bâtiment de la Marine nationale a arraisonné un navire qui était censé porter de la drogue. Visiblement, cette drogue a été jetée avant. L'armateur de ce navire a attaqué la France pour, je dirais, acte d'arraisonnement illégal. C'est-à-dire que le droit de la mer, il faut le réécrire aujourd'hui. On est sorti de la guerre froide, donc on risque moins, je dirais, de flamber de violence. Il faut aujourd'hui peut-être se doter d'une police des mers.
Donc en tout cas, en pleine mer, on peut jeter n'importe quoi par-dessus bord.
Non, compte tenu des conventions, on n'a pas le droit. Mais bon.
Donc il y a des conventions. Enfin, on a essayé de se border.
Il y a des conventions, mais qui va surveiller ça ? Vous savez, les avions ne vont pas surveiller le milieu de l'Atlantique. Bon, ceci étant dit, les navires, en principe, prennent les routes les plus directes, donc ils sont au large des pays. Je ferai remarquer en passant que depuis que la France se montrait vigilante au niveau de la lutte contre ce qu'on appelle le dégazage, qu'on ferait mieux d'appeler le déballastage, mais peu importe, dans la lutte contre le dégazage, eh bien, on obtient des résultats. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus ou de moins en moins de dégazage au large de nos côtes. Mais qu'est-ce que j'observe ? Il y en a beaucoup plus au large de l'Espagne. Ça montre bien qu'il faudrait que l'ensemble de l'Union européenne, qui s'est dotée d'une politique maritime depuis décembre 2008, eh bien remplisse les cadres qui sont encore vides de cette politique maritime pour non seulement avoir une politique maritime de prévention, mais allons plus loin avec le Grenelle, une véritable politique maritime. Vous savez, l'Europe à trois fois plus de côtes que les États-Unis et deux fois plus que la Russie. C'est-à-dire qu'on a un destin maritime, et si on ne joue pas ce destin maritime, on n'aura pas, je dirais, le destin économique que nous souhaitons, ni la relance économique.
Alors justement, c'est bien souvent quand il y a des catastrophes que les législations avancent, que les choses se développent. Souvenez-vous, il y a eu l'Erika, le Yevolusson, le Prestige, et à ce moment-là,
et
l'Europe a fait avancer sa législation. Je vous propose d'écouter cet élément de Manuela Bermudez qui rappelle ces faits.
Ce matin, un pétrolier maltais s'est brisé en deux au large de Brest. Les 26 hommes d'équipage ont été récupérés. Le bateau est à la dérive. 30 000 tonnes de fioul s'échappent de l'épave et menacent maintenant les côtes françaises.
12 décembre 1999, l'Erika, un super pétrolier battant pavillon maltais, vient de se casser en deux au large de la Bretagne. Pris dans la tempête, il coule en quelques heures, déversant 19 000 tonnes de déchets pétroliers dans l'océan. 400 km de côtes seront pollués. En cause, l'état du navire. L'Erika a 25 ans, sa coque présente des fissures. Ce bateau n'aurait pas dû être autorisé à naviguer. Très vite, la compagnie pétrolière Totalfina est accusée d'avoir voulu faire des économies en affrétant un navire poubelle.
Le chargeur, là, en l'occurrence, c'est Totalfina qui est aussi responsable parce qu'ils ont choisi un bateau sans doute pas cher, puisque c'est un bateau de 25 ans. Alors, bon, ben, ils font des affaires, quoi, avec un bateau pas cher. Mais bon, ben, on sait, tout le monde sait qu'un bateau de 25 ans, c'est un bateau à risque, et puis c'est tout.
Et la série noire ne s'arrête pas là. 10 mois plus tard, un deuxième navire, le Yevolisson, coule à son tour au large des côtes françaises. On frôle la catastrophe chimique, car le navire transporte 6000 tonnes de styrène, un composé toxique. Cette fois encore, c'est la structure du bateau qui est en cause. Les cloisons du chimiquier n'ont pas résisté.
Le bateau est en train de couler. Il est à peu près à 60 km de Cherbourg. Malheureusement, on pouvait espérer que la coque tiendrait jusqu'à l'arrivée à Cherbourg. On n'était plus très loin du but. Il restait 4 à 5 heures de mer à peu près. Bon, là, ce qu'on peut imaginer, c'est que malheureusement, sous le coup les coups de boutoir de la mer, les cloisons ont cédé et le bateau s'est progressivement rempli d'eau. Il est en train de couler, malheureusement.
Puis survient la catastrophe de trop. 2 ans après l'Erika, un autre super pétrolier, le Prestige, coule au large de l'Espagne et répand 64 000 tonnes de fioul lourd. Une gigantesque marée noire va toucher les côtes atlantiques, du Portugal jusqu'à la Bretagne. Une fois encore, les ingrédients sont les mêmes. Un vieux navire, un armateur pas très regardant, un pavillon de complaisance et des contrôles insuffisants. Mais cette fois, l'Europe déclare la guerre aux navires poubelles. Les 65 bateaux les plus dangereux du monde sont purement et simplement interdits de navigation.
Pour les bateaux qui ont un pavillon reconnu comme étant un pavillon dangereux et qui, de surcroît, ont été immobilisés lors de contrôles plusieurs fois, notamment 2 fois sur 2 ans, ces bateaux-là sont considérés comme très dangereux, très risqués. Et donc, c'est une liste noire des 65 bateaux les plus dangereux, ceux que nous devons de toute façon bannir de nos eaux.
Erika, Yevolisson, Prestige, il aura fallu 3 catastrophes écologiques pour que l'Europe tire les leçons de ces naufrages. Désormais, les contrôles techniques ont été renforcés, les sanctions en cas de pollution ont été durcies et les bateaux à simple coque, trop dangereux, seront définitivement mis au rancard en 2010.
Christian Buchet, il faut souvent des catastrophes pour faire avancer les choses.
Bon, tant que c'est du pétrole, ça va, parce qu'au niveau environnemental, en gros, on va éradiquer l'essentiel en 9 années, quoi. Mais si vous avez un chimiquier, là, les conséquences risquent d'être irréversibles. Il y a eu effectivement le cas du Yevolisson, mais c'était du styrène. Heureusement que ce n'était que du styrène.
Ouais.
Vous dites qu'il faut 9 ans pour que ça se nettoie.
Ça dépend bien sûr des milieux. Dans un milieu comme les côtes françaises, oui, effectivement, avec le Kloxol Valdez en Alaska, c'est infiniment plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes micro-organismes.
Alors, quelles ont été les grandes leçons de toutes ces catastrophes, finalement ?
Au niveau de l'Europe, il y a eu des mesures salutaires qui ont été prises, et à commencer par l'Agence européenne de sécurité maritime. Les paquets ERECA 1, 2, le paquet ERECA 3 est adopté, mais toujours pas appliqué, donc il faut aller dans ce sens-là. On a pris la mesure, ça j'ai eu beaucoup de mal, mais l'ensemble des experts sont totalement d'accord, on est allé vers des pétroliers à double coque. Bon, mais la double coque est une erreur majeure. Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, le coup est parti, puisque maintenant, il ne pourra plus y avoir que des pétroliers à double coque. L'avantage de cette mesure, c'est
que à partir de 2010,
ça renouvelle le parc de pétroliers, donc ils seront plus jeunes, donc ils seront plus sûrs.
Double coque, ça veut dire en gros, s'il y a une fuite, c'est la deuxième coque qui évite la fuite, c'est ça ?
Oui, en gros, il y a 2 coques, si vous voulez. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont aussi grosses qu'une bonne vieille coque. Le problème, c'est que la double coque est un piège à corrosion. Ça, on ne le sait pas. Ça, c'est typique d'une décision politique. Il y a un naufrage sud de l'Exode Valdez. En début d'après-midi, il faut que le soir, le politique dise plus jamais ça. On a trouvé la solution. 2 coques valent mieux qu'une. Eh bien, non. Il vaut mieux une bonne vieille coque que 2 coques parce que c'est un piège à corrosion, je vous le disais. La meilleure preuve, c'est que là où l'Erika s'est brisé en deux, là où le Prestige est brisé en deux, c'est précisément à la hauteur d'un ballast vide qui faisait office de double coque. La succession d'air libre, de pétrole, d'eau de mer accentue la corrosion. C'est-à-dire que le problème des pétroliers à double coque, c'est que le coût de l'entretien coûte plus que 2 fois celui d'un pétrolier à simple coque. Et on le disait tout à l'heure, l'insécurité maritime résulte du mauvais entretien. C'est-à-dire qu'un pétrolier neuf, il va être acheté par des intérêts assez conséquents, l'intérêt occidentaux, et puis c'est comme une voiture, il y aura un deuxième propriétaire, et puis un troisième propriétaire. Et plus vous descendez vers les propriétaires dans la durée, moins ces armateurs ont d'argent, moins ils ont les moyens, si vous voulez, de surveiller, d'entretenir le navire, et plus le navire devient dangereux. C'est dire que là, il faut lutter contre cela, nous nous préparons, je l'ai écrit, nous préparons des naufrages conséquent au-delà de 2 ou 3 ans, c'est-à-dire quand les premiers double coques vont avoir 15 ans. Et vous savez, les assureurs, qui sont des grands professionnels, eh bien, ils ont majoré les polices, les primes d'assurance sur tout ce qui est pétrolier double coque, parce qu'ils savent très bien que s'il n'y a pas un traitement spécifique, avec un coût très conséquent, que certains n'ont pas les moyens de faire, eh bien, nous aurons des naufrages majeurs.
Alors, cette journée en France est marquée, hein, on le disait, par la procédure en appel du procès Erika. Donc, on en a parlé dans le petit élément de Manuela. Comment est-ce que vous voyez ce procès, vous? Donc, ce sont des communes qui font appel parce que,
écoutez, voilà, c'est un dossier complexe. Il faut d'abord pas diaboliser Total, dans la mesure où Total, je dirais, est intervenu financièrement dans un premier temps, alors que rien n'obligeait à le faire, puisqu'en l'état actuel de la législation, même si c'était modifié depuis, seul l'armateur, le propriétaire est responsable, pas l'affréteur. Alors après, les sociétés de vetting, tout le débat va rentrer dedans, mais je ne rentrerai pas dedans, c'est un petit peu technique. Hein. Je dirais, quelque part, Total est un groupe français, ça s'est passé en France, Total a mis la main à la poche parce que c'était ça. Malheureusement, pareille chance n'est pas arrivée au niveau du prestige. Donc, au-delà de tout ça, oui, il faut certainement élargir la chaîne de responsabilité. Mais je vous le disais tout à l'heure, si on doit l'élargir, après l'armateur, en tous les cas, n'oublions pas l'état du pavillon. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Vous savez, 55% de la flotte mondiale sont des pavillons de complaisance aujourd'hui. C'est quoi un pavillon de complaisance? Alors, on me dit souvent, c'est sympathique d'ailleurs comme idée, il faut supprimer les pavillons de complaisance. Mais ça veut rien dire. C'est sympa, hein. Mais vous n'allez pas empêcher un état, à plus forte raison, s'il a accès à la mer, de ne pas envoyer des navires. Il faut au contraire responsabiliser les états. Et là, ils seront plus sur ce sillon, sur la bonne surveillance des sociétés de classification. C'est comme ça que vous allez supprimer la complaisance. Pourquoi elle existe, la complaisance? Disons-le clairement, si vous prenez le cas le plus typique, vous réalisez jusqu'à 63% d'économies sur le bien que vous transportez. Donc aujourd'hui, on continue à aller vers la complaisance. Il est temps d'en sortir. Et si on payait le transport maritime à son juste prix, vous savez, on a fait des études, ça supposerait une augmentation de la tasse de café de 2 centimes d'euros. C'est pas ça qui va vous casser la croissance économique.
Merci Christian Buchet. C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler des nouveaux indicateurs économiques, où, par exemple, on pourrait mesurer la qualité de la vie au lieu de la performance économique. Enfin, on verra tout ça demain. Même planète.
Même heure.